VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est midi en temps universel. Bonjour, bienvenue. Au Burundi, au moins 2 civils ont été tués et un policier blessé ce lundi. Alors, lors d'une opération de police dans un quartier contestataire de Bujumbura, selon une source policière et des témoins, après une nuit calme, les autorités burundaises ont lancé dimanche une vaste opération de recherche d'armes dans un autre quartier contestataire. Il s'agit de Mutakura, dans le nord de Bujumbura, à l'expiration d'un ultimatum lancé par le président Pierre Nkurunziza aux opposants à son troisième mandat. Bujumbura a encore ce week-end compté ses morts. Christophe Nkurunziza, notre correspondant dans la capitale burundaise, nous en dit davantage.
Samedi vers 20h, quartier de Kanyosha au sud de Bujumbura, dans le cabaret appelé Coin des Amis, des hommes armés s'introduisent et tirent sur les clients selon les rescapés. Et le décompte macabre se chiffre à 8 personnes tuées par des hommes en tenue policière. Parmi les victimes, l'on cite le propriétaire du bistrot, son fils, un certain Cyprien Daïchimier, qui était secrétaire exécutif du réseau des microfinances, et ses deux hôtes. Le PNUD déplore la mort d'un de leurs employés dans cette tuerie. Des policiers avaient accusé il y a une semaine le propriétaire de ce cabaret d'être de mèche avec les manifestants. Le nombre des victimes tuées a été confirmé par l'administrateur de la commune de Moura, Jean Bosco Girikushaka. Dimanche, l'opération de désarmement de la population a commencé dans les quartiers de Mutakura et de Chivitoke, au nord de Bujumbura. Il y aurait eu des bévues selon les témoignages de la population. Le ministre de la Sécurité publique a indiqué que cette opération se fait avec professionnalisme tout en respectant les droits de l'homme. Alain Guillaume Bougnoni appelle les habitants qui ont fui de regagner leur ménage. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et la présidence burundaise a tenté samedi de rassurer la communauté internationale qui s'inquiète de possibles violences policières et d'une potentielle escalade sur fond de discours incendiaires aux connotations ethniques de certains durs du pouvoir. Gervais Rufwikwi, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale burundaise exilé à Bruxelles, est plutôt sceptique.
Chaque fois qu'ils organisent des fouilles, le bilan n'est pas extraordinaire des armes qu'ils parviennent à ramasser. Et donc c'est dire qu'il y a une autre volonté de mourir plutôt que de chercher des armes. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'invite tout le monde à tirer les leçons de l'histoire du Burundi, mais aussi de l'histoire d'autres pays, pour ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont causé des catastrophes humanitaires, telles que les massacres de masse, mais aussi des génocides.
Quelle est votre réaction aux accusations du président rwandais Paul Kagame, selon lesquelles les autorités burundaises massacrent la population?
Mais lorsque on dénombre chaque jour des morts, il y a des gens qui sont kidnappés, il y a des gens qui sont arrêtés et quelques jours plus tard, on trouve le cadavre. Ça veut dire que c'est des instruments du pouvoir qui sont tuer la population. Et là, je ne pense pas que ce soit uniquement le président rwandais qui dit ça. Et c'est un fait hier qui ne s'observe pas les faits.
Gervais Rufwikwi, ancien deuxième vice-président de l'Assemblée nationale burundaise, joint à Bruxelles par Timothée Donangmaï. Et le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui à la demande de la France pour évoquer l'escalade des tensions au Burundi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, une quarantaine d'intellectuels, professeurs notables et membres de la société civile ont demandé aujourd'hui à la population et aux candidats de ne pas utiliser le ressort ethnique ou religieux lors de la campagne des élections présidentielles et législatives du 29 novembre. Dans cet appel à la retenue dans le discours politique, les signataires condamnent fermement l'utilisation de l'appartenance religieuse et ethnique comme moyen de conquête du pouvoir. Ces élections présidentielles et législatives doivent clore la transition démocratique ouverte après la chute de Compaoré, chassé par la rue après 27 années au pouvoir. Élection présidentielle de 2016 au Niger, le président sortant, Issoufou Mahamadou, est candidat à sa succession. Il a été investi pour cette mission ce week-end par son parti, le PNDS, et devient ainsi le troisième candidat déclaré pour ce scrutin prévu en février 2016. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est par une résolution spéciale que les délégués à ce congrès du 7 novembre 2015 ont investi Issoufou Mahamadou comme candidat du parti à la présidentielle de 2016. Issoufou Mahamadou va donc briguer un second mandat sous les couleurs de son parti, le PNDS Tareya. C'est le troisième candidat annoncé à ces élections prévues pour le 21 février 2016. Il vient après deux de ses anciens alliés lors des dernières élections, Amamadou du Modène F Alumana Africa en exil et Amadou Boubacar Cissé de l'IDR Tabat qui a déjà présenté ce dimanche son programme politique. Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Nigeria, l'armée a annoncé avoir procédé à la première arrestation d'un militant de Boko Haram depuis la publication à la fin du mois d'octobre d'avis de recherche de 100 membres du groupe islamiste. Le suspect, un certain Chindo Bello, a été arrêté à l'aéroport d'Abuja alors qu'il s'apprêtait à embarquer sur un vol intérieur pour Lagos, a annoncé le porte-parole de l'armée, le colonel Sani Ousmane. L'armée nigériane a publié à la fin du mois d'octobre des affiches de 100 membres les plus recherchés de Boko Haram, appelant le public à communiquer toute information permettant de les localiser. Au Togo, les autorités ont annoncé des sanctions disciplinaires contre des membres des forces de l'ordre impliqués dans les incidents de vendredi et samedi à Mango, dans le nord du pays, et qui ont fait 5 morts. Les heurts avaient éclaté lorsque des policiers voulaient disperser une marche de protestation contre la réhabilitation d'un ensemble d'aires protégées dans la région. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint Namoro Zekeria, un habitant de Mango.
Actuellement, le calme est revenu un peu. On avait arrêté certaines personnes, une cinquantaine. La plupart, ce sont les élèves qui revenaient de l'école. Ils ont croisé la foule comme ça. On les a pris, ils n'ont pas pu suivre. Donc, leurs mamans sont sortis pour manifester, pour marcher, proclamer la libération. Et à la suite de cette marche, le gouvernement a fait la déclaration, le ministère de la Sécurité, qu'ils ne devaient pas libérer tous. Ils vont libérer seulement les élèves et les femmes. Effectivement, ils ont pu libérer 9 élèves et femmes. Actuellement, il y a encore 21 qui sont détenus dans les deux gendarmeries de Dapaon. Ils ne les ont pas laissés ensemble. On a eu interviewé certains qu'ils ont libérés. Puis la plupart, c'est des élèves. Il y a même des étudiants dedans.
Les autorités disent avoir pris des sanctions contre les agents de l'ordre impliqués dans ces incidents. Quelle est votre réaction à ces décisions?
Bon, c'est pourquoi je vous ai dit qu'ils n'ont pas situé les responsabilités. Ce que moi j'ai vu, ce qu'ils ont dit là, il y a beaucoup de déformations. Par exemple, les gens ont vu le commissaire de Mango tirer. Il est familier, tout le monde le connaît dans la ville de Mango. Mais le gouvernement dit que s'il n'a pas tiré volontairement, il se sent menacé. Alors qu'il y avait une distance entre la foule et lui et les forces de l'ordre. Ils ne sont pas affrontés avec les coups de poing. Il y avait une distance et ils y tiraient. À lui seul, il a tué 2 sur le champ et 8 personnes blessées par balle.
Namoro Zekeria, un habitant de Mango, dans le nord du Togo. Entretien, il est 12h07 au Togo.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Oui, on ouvre la page internationale de ce journal avec des entretiens ce lundi prévus à la Maison-Blanche entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président Barack Obama. Ce sera le premier tête-à-tête entre les deux leaders depuis la signature de l'accord historique sur le programme nucléaire iranien. Les précisions, Timothée Donangmaï.
Benjamin Netanyahou a fait savoir que son objectif lors de cette visite est d'obtenir le renforcement de la sécurité d'Israël après la signature de l'accord nucléaire entre l'Iran et les pays du groupe P5+1, un accord qui a sérieusement mis à mal les relations entre les États-Unis et Israël. Face à cette menace perçue, le premier ministre israélien estime que son pays a droit à des compensations de la part de Washington. Israël, a-t-il dit, cherche une augmentation substantielle de l'aide sécuritaire américaine sur la prochaine décennie en la faisant passer de l'enveloppe actuelle de 3 milliards de dollars par an à 4 ou 5 milliards annuellement. Les discussions de Benjamin Netanyahou et Barack Obama à Washington porteront aussi sur les 6 semaines de violence entre Israéliens et Palestiniens qui font craindre un conflit majeur et sur les moyens de faire baisser la tension sur le terrain.
Et en Birmanie, le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi a revendiqué aujourd'hui une victoire écrasante aux législatives de dimanche avec plus de 70% des sièges de députés. Nous gagnons avec plus de 70% des sièges à travers le pays, mais la commission électorale n'a pas encore annoncé les résultats, a déclaré Win Etin, porte-parole du parti de Aung San Suu Kyi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal, c'est dans environ 50 minutes et ce sera avec Henri Francisque. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité.
Sous Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.